Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
L'un des piliers DevOps est l'automatisation. Or, il n'y a pas d'automatisation sans code, et Git est devenu essentiel dans la collaboration autour du code source. Pour moi, c'est même la colonne vertébrale du cycle de vie d'une application DevOps. C'est aussi un outil de communication au sein de l'équipe, y compris entre les devs et les ops. Pourtant, on constate qu'il est rarement pris au sérieux dans l'enseignement. Nous en parlions justement dans Rayo DevOps numéro 19 sur les filières courtes. Je vous mets le lien en description. Mais les ingénieurs ne sont pas mieux lotis.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon. Alors, dans cet épisode, on est là pour t'aider à débuter avec Git. Je vous en parlais en introduction, mais qu'on soit ingénieur ou qu'on vienne de filières courtes, j'ai constaté, en tout cas avec mes stagiaires et alternants, que Git n'était pas forcément bien compris, bien pris au sérieux ou même bien pratiqué. Donc dans cet épisode, on va partager nos tips et nos bonnes pratiques et on va faire des retours d'expérience autour de Git, cet outil vraiment essentiel. Et avec moi aujourd'hui, j'ai pour en parler Erwan. Bonjour Erwan.
Bonsoir.
Et René. Bonjour René.
Bonjour.
Alors, je précise, petit disclaimer avant qu'on commence, que ce podcast n'est pas là pour remplacer une formation. Si vous vous attendez à être formé sur Git à la suite de ce podcast, bon, je pense que vous avez de très hautes espérances, mais c'est pas là pour ça. Nous, on va vous faire un retour pratique de nos avis, on va vous partager des bonnes pratiques, mais ça remplacera jamais une formation. Donc, formez-vous à Git. Vous avez des tutos très bien, mais si vous voulez aller plus loin, vous pourrez trouver des formations sans aucun problème. Si jamais vous intéressez très fortement à Git et si cet épisode vous plaît, j'ai créé une communauté qui est dédiée exclusivement à Git et GitLab. Donc, c'est la communauté FrogGit. Et donc, en t'inscrivant, tu recevras en plus mon anti-sèche Git. Tu retrouveras en plus sur le wiki lié à la communauté un guide des bonnes pratiques que j'ai écrit. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description, c'est hyper simple. Alors, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que Git ? C'est quoi ce truc ? Git, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Est-ce qu'on peut avoir une petite définition de Git ? Et c'est René qui s'y colle pour commencer.
Alors, tu prends des risques, hein. Donc, Git, c'est un SCM, donc Source Code Management, si je ne dis pas de bêtises. En bref, pour faire simple, c'est un outil qui permet de pallier à nos déficiences humaines, notamment notre mémoire, et qui va permettre de suivre les versions et les évolutions, les modifications qu'on fait sur un ensemble de fichiers. Voilà, je pense que c'est la définition la plus courte que je peux donner si vous voulez renchérir.
Ouais, c'est ça, c'est que ça permet de répondre à la question du qui, quand et quoi sur du code.
Alors, moi, je peux aussi vous donner un petit point de vue. De mon point de vue, ça permet d'éviter de séparer vos fichiers dans des dossiers comme on le voit régulièrement ou de les renommer version 1, version 2, version 4, version 5. Git, c'est un outil magique si vous adorez les univers parallèles et si vous avez toujours rêvé de remonter dans le temps. Ah, je vous fais rêver, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est clairement ça. C'est quand on utilise Git, on a des univers parallèles, les branches, on peut remonter dans le temps, on peut remonter dans l'historique. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre rencontre avec Git, comment elle s'est passée, dans quelles conditions, est-ce qu'on s'en rappelle encore? Erwan, est-ce que tu peux commencer sur ta rencontre avec Git, nous raconter un petit peu ta petite histoire derrière ta rencontre avec Git?
Ouais. Alors juste, les SCM, y en a eu avant Git. Moi, j'ai commencé à utiliser ce genre d'outil avec SVN, qui donc aujourd'hui est un peu désuet, mais qui était l'outil dominant à l'époque. Et en fait, je pense que j'ai commencé à me mettre à Git, ça devait être en 2009. Et c'est quand j'ai rejoint une boîte où, en fait, j'avais pas le choix, ils faisaient du Git. Et moi, je venais de SVN, alors je peux vous dire que le choc a été un petit peu frontal au début. Mais c'est comme ça. Et en fait, j'étais dans une boîte qui utilisait Git. Et mon premier projet, c'était justement de mettre une espèce de couche avec des gestions de droits, etc., qui s'appelle, alors je sais pas si ça existe encore comme projet, mais GitLite, qui est une espèce de surcouche à Git pour gérer tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Git. Mais sinon, la gestion de code, je connaissais ça avant avec du coup SVN. Et toi, René?
Alors moi, ça, voilà. Là, on va remonter au temps des dinosaures. Je fais une petite référence au mot de la fin d'une précédente émission qu'on a faite. Moi, j'ai commencé avec RCS, parce que j'ai assez vite vu l'avantage de suivre les fichiers, mais RCS, ben, c'est vraiment, c'était même pas en réseau, c'était limite perso. Après CVS, puis Subversion, et puis Git. Et Git. Une assez grosse révolution. Par contre, je l'ai utilisé quand même peut-être pas mal de temps en mode un petit peu, je vais pas dire superficiel, mais voilà, sans aller trop dedans. Et par contre, à un moment, je me suis lancé à faire un projet un petit peu annexe pour dans la communauté OpenStack, un proof of concept. Et là, par contre, j'ai dû vraiment aller plus loin et découvrir bien plus en profondeur. Voilà, c'est mon expérience avec Git. Et puis depuis, je l'ai mis en place. J'ai aidé certaines équipes chez des clients à essayer de mieux appréhender ça plusieurs fois.
Alors moi, j'ai commencé aussi avec CSV, avec Tourtoise CSV, je m'en rappelle, j'étais chez Casino. C'était compliqué. J'étais l'un des rares dans l'équipe d'exploit à gérer. Alors pour info, dans l'équipe d'exploitation, on installait les applications et moi je faisais beaucoup de scripts de déploiement d'applications. C'est moi qui étais un peu chargé de ça puisque j'avais un passif de développeur et puis voilà, je me débrouillais pas mal en shell script. Et très vite, j'ai eu des soucis en fait à gérer les versions, etc. Et j'ai su que dans la boîte, il y avait un gestionnaire de version. Donc, j'ai demandé des accès au gestionnaire de version qui était utilisé que par les développeurs. Donc, je devais être l'un des premiers ops à utiliser ça. Et c'était une purge. Parce que, voilà, c'est pas mauvais, hein, mais c'était pas pratique. Et du coup, je suis passé à Git plus tard. J'ai découvert Git en traînant avec des développeurs web à l'époque. Et je viens de retrouver, en fait... ma première activité sur GitHub, ça date de décembre 2012, mais c'était juste mon inscription. En fait, mon premier commit date de janvier 2014. J'ai commencé vraiment, je pense, à utiliser Git en local dans cette année-là, en fait, 2013-2014, et à commencer à faire, à vraiment utiliser ça de manière régulière à ce moment-là. Et puis, quand je suis devenu freelance, là, je suis rentré avec une équipe de développeurs qui n'utilisait que Git, donc il a fallu que je m'y fasse, et j'ai appris Git à la dure avec eux, parce que c'était pas facile, parce que c'est là où j'ai appris à être tatillon sur les messages de commit, etc., parce que je faisais comme tout le monde fait, modifier readme, add machin, truc. Bon, bref, je vous passe, on en parlera plus tard peut-être. Voilà ma rencontre avec Git. Alors maintenant qu'on a un peu expliqué ce que c'était Git, on va peut-être dire d'où ça vient. Et Erwan, je crois que tu vas nous dire quelques petites choses à ce propos.
Du coup, d'où ça vient? C'est créé par Linus Torvald. Ça a été créé donc en 2005. Le pourquoi ça a été créé, c'était que, enfin, long story short, c'est que Linus Torvald a trouvé que les outils justement comme SVN, donc Subversion, étaient un peu dépassés parce qu'ils n'étaient pas, pas décentralisés. C'était très compliqué de travailler à plusieurs sur un même projet. Et donc, en fait, de ce besoin-là est né né Git. Alors, j'ai dit décentralisé, mais il y a aussi le côté de asynchrone. puisque chacun a sa propre copie du code, etc. Et qu'on pousse quand on veut sur une branche de référence. Et donc c'est né de ce besoin-là. Et en plus, il y avait cette volonté de rendre je ne sais pas si vous avez déjà cloné des repos SVN qui ont beaucoup d'historique, c'est excessivement long. Et en fait, le Git, justement, devait embarquer, une des features qui a fait émerger Git, c'était aussi le fait de quand on récupère du code ou quand on en push, en fait, tout est compressé. Et donc, du coup, on pousse et on récupère que des diffs. Et c'est des diffs qui sont compressés. Donc, forcément, on gagne en performance. Donc, c'est de là qu'est né, c'est à partir de tous ces besoins et ces frustrations, ces frictions qu'est né Git. Et il y a une petite vidéo il y a une petite vidéo qui est un talk de Linus Torvald qui tient chez Google pour justement raconter un petit peu toute la genèse du projet. Et la vidéo est assez connue puisque il y a la personnalité très particulière de Linus Torvald est assez éblouissante dedans. Voilà.
Justement, en fait, il y avait aussi une autre raison, c'est qu'ils utilisaient pour la gestion des sources de Linux, ils utilisaient BitKeeper, donc qui était un gestionnaire, un SCM propriétaire. Et donc, c'est une histoire de logiciel libre, quelque part, parce que, ce code propriétaire, Linus, ça lui convenait, mais il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées qui ont fait que l'éditeur du logiciel ne voulait plus donner de licence gratuite aux développeurs du kernel, entre autres parce qu'il y a eu des reverse engineering du code, etc. Allez voir il y a certaines vidéos qui vont mentionner ça. Comme il pouvait plus avoir de licence gratuite, Linus s'est un peu déchaîné et il a fait un outil pour remplacer BitKeeper. Et il déteste SVN. Mais justement, et du coup, ce que tu as dit est complètement vrai, il voulait pas du tout remplacer par SVN.
Justement, tu parles de vidéo, je vous renvoie à la vidéo de CockAdmin qui nous parle du conflit qu'il crée à Git. Je mets le lien en description si vous voulez en apprendre plus sur la genèse et la création de Git. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est si important Git? Parce que, outre le fait de gérer nos versions, Git a une place encore plus importante pour moi que les autres gestionnaires de versions, pour plein de raisons. Alors déjà, moi je peux vous citer le fait que Git, c'est un outil de communication entre les équipes, parce que si on se concentre juste sur Git, vous pouvez communiquer avec votre équipe avec les messages de commit et donc dire pourquoi vous faites les choses et pas juste comment vous les faites. Et si on extrapole avec les outils tels que GitHub, GitLab ou Frogit, vous pouvez aussi communiquer autour de votre dépôt avec les issues, avec les merge requests. Et donc, tous ces trucs-là font, pour moi, que Git est vraiment important pour communiquer entre les membres de l'équipe. Je vous ai séché, là.
Ah bah non.
T'es d'accord ? Bon, bah nickel. Bon, alors, du coup, l'autre truc qui, pour moi, est vraiment intéressant, c'est finalement, Git, ça a plein d'événements. Notamment quand on crée un commit et qu'on le pousse sur le dépôt. Donc Git, c'est décentralisé, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on a notre dépôt local sur nos machines et on a un dépôt central qui permet à chacun de venir récupérer le dépôt de code ou pousser pour mettre à disposition les évolutions qu'on a fait. Et du coup, ce dépôt central, il peut servir pour écouter les événements Git, donc les push, les merges, si on merge une branche dans une autre, la création des tags, enfin, il y a plein d'événements dans Git, et on peut faire pas mal de choses avec ces événements en le couplant avec une intégration continue et un déploiement continu. Et ça, pour moi, c'est une des forces de Git, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Git est si central dans le DevOps, parce que vraiment, sans Git, en fait, on pourrait pas faire pas mal de choses qu'on fait aujourd'hui dans le DevOps. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Alors oui, mais c'est pas propre à Git ce que tu décris, puisque enfin moi je me souviens que ce qu'on avait sur SVN, ça, on avait aussi des événements qui trigger l'équivalent de la CI qu'on avait à l'époque, par exemple. Mais ce qui est vrai, c'est que alors il y avait le côté décentralisé qui est important, le côté aussi asynchrone, c'est-à-dire que tu sur SVN, tu peux, enfin alors sauf si mes souvenirs sont erronés, mais tu peux pas travailler avec SVN sans avoir d'accès à ton repo central. Et alors que Git, bah tu même si t'as pas de Wi-Fi ou quoi que ce soit, tu fais toutes tes modifications en local, même si t'es dans le train ou quoi que ce soit. Et puis dès que tu récupères une connexion, tu peux pusher. Et moi, c'est plus là-dessus que pour moi, ça a changé le paradigme, parce que avant, je trouvais que, enfin, t'étais contraint par ton SCM, et avec Git, et puis, il y a d'autres, on l'a pas cité, mais il y a d'autres outils qui sont aussi décentralisés, asynchrones, etc., comme Mercurial. Et Git a vraiment changé, en tout cas pour moi, le truc là-dessus, et pour moi, c'est ça qui fait que c'est devenu beaucoup plus important que SVN, qui finalement, quand tu compares les deux, en fait, tu vois que des contraintes à SVN. Je vois pas des gens qui, ayant connu la souplesse de Git, vont se dire oh, en fait, c'était pas si mal SVN, quoi. Au-delà d'autres avantages qu'on n'a pas encore cités, qui sont la résolution de conflits, des merges, etc. Mais donc voilà. Ce que je voulais juste dire, c'était que du coup, les événements que tu décris, c'est vrai qu'avec Git, et puis surtout les intégrations qu'il y a avec GitLab, GitHub, etc., bah, font qu'il y a énormément d'événements que tu peux récupérer effectivement pour alimenter ta CI et tout. Mais en vrai, tu pouvais retrouver déjà ça avec les outils un peu plus vieux.
Moi, j'ai pas connu ça. Alors, on parle d'intégration continue. Moi, je vous renvoie à l'épisode numéro 11 qu'on a fait sur l'intégration continue. Il y a le lien en description. Vous pourrez prolonger, en fait, l'intégration continue. Erwan, tu voulais nous parler aussi du fait que Git était pas mal réservé aux devs.
Oui, en fait, enfin, je voulais dire, c'est que je pense aussi que l'usage des SM de façon générale, en tout cas moi quand j'ai commencé ma carrière donc ça commence à remonter un petit peu, mais en gros les SVN au début on voyait vraiment ça pour pour le code des devs, quoi. Et en fait aujourd'hui je pense que, et surtout avec l'émergence de mouvements DevOps, etc., bah en fait on se rend compte que ce besoin de versionner ce qu'on fait elle peut s'appliquer à n'importe quoi. Donc effectivement le code ça a du sens, mais aussi vos docs, vos configs, moi j'ai même personnellement mes recettes qui sont versionnées sur GitHub. En fait c'est juste ce besoin de pouvoir itérer sur quelque chose, quoi, et de pouvoir le tracer, et le tracer donc avec les messages que tu évoquais un peu plus tôt, et donc du coup ça a souvent été on va dire plus du côté dev, et en fait avec le mouvement DevOps et tout, je pense qu'aujourd'hui dans les bonnes pratiques, dans les premiers points, il y a forcément ce besoin de versionner tout ce qu'on fait, que ce soit le code, la doc, les configs, et Git, donc encore une fois avec tous les avantages certains qu'on a cités et tout, a vachement renforcé ce point-là. En tout cas, de mon point de vue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oui, bah absolument. Ouais. Enfin, je pense que ce qu'il faut sortir absolument de la tête des gens, c'est que, voilà, ce que disait Christophe, gérer ses fichiers, ses versions de fichiers en créant des nouveaux fichiers V1, V2, V3, c'est plutôt une très mauvaise pratique, et que vraiment, un gestionnaire de version, c'est absolument indispensable aujourd'hui. Pour suivre un petit peu ce qui se passe, et même avec ce type d'outil, parfois ça peut être compliqué. Donc sans, c'est juste un cauchemar.
Oui, c'est vrai, j'ai vu des stagiaires me faire ça justement, c'est pour ça que je le disais, mais du coup, c'est pas de la blague, hein. C'est vraiment des stagiaires qui arrivaient, qui commençaient à me faire des répertoires. Je leur demandais pourquoi ils me faisaient ça, alors qu'on avait un dépôt Git et tout. Et en fait, ils voulaient cloner le dépôt Git dans plein de répertoires. Je leur ai expliqué, mais non, t'as pas besoin avec les branches, etc. Bon, on reviendra à ça. Et justement, René, tu voulais nous parler de contribution.
Oui, enfin, après, c'est un petit point que je voulais rajouter, c'est que ben, Git, en fait, c'est la base à d'autres services en ligne. On a évoqué GitLab, GitHub. Et pourquoi il faut le connaître? Ben, c'est que ben, pour utiliser GitLab, GitHub, ben, avoir une compréhension de Git, ça va énormément faciliter les choses l'utilisation de ces services-là. Et aussi, ben, c'est aujourd'hui si les gens sont intéressés par faire des contributions sur du logiciel libre ou voilà, enfin, à travers ces outils-là, ben voilà, c'est maîtriser Git un minimum. Voilà, c'est vraiment un prérequis, je pense, pour rentrer dans ce monde-là.
Ouais, mais tu réponds quoi aux gens qui disent que justement Git ça marche pas?
Ouais, alors il y a des gens qui m'expliquent ça des fois. Git ça marche pas, c'est des équipes de 10, ils s'en sortent pas et tout ça. Donc, alors en fait, souvent c'est un problème de connaissance de l'outil parce que c'est un outil qui, malheureusement, on croit que c'est extrêmement facile, etc. Mais c'est un outil extrêmement puissant, donc il faut effectivement apprendre à le maîtriser. Et voilà, et souvent je réponds que ben, ça marche quand même pour des projets de taille plus que conséquente avec des milliers de développeurs. Donc je pense qu'une équipe de 10, si on fait l'effort de se former et de l'apprendre comme il faut, il n'y a aucune raison que ça marche pas.
Ça, c'est vrai. Il y a pas de raison que ça marche pas. Erwan, tu veux rajouter quelque chose sur l'importance de Git?
Ah bah non, mais je rejoins tout ce que René vient de dire. Enfin, aujourd'hui, c'est un outil, en tout cas dans le monde open source, c'est un outil indispensable, hein, dans les gros projets. Alors bien sûr, on n'est pas forcément obligé d'être contributeur sur ces trucs-là, mais par exemple, le kernel Linux, Debian, GNOME, Android, tout ça, c'est sur Git. Et même les projets historiques qui étaient sur SVN, en fait, ils ont bougé sur Git aussi pour faciliter la contribution. Donc aujourd'hui, si on veut participer à un projet open source, connaître Git, c'est indispensable.
Exactement. Du coup, une fois qu'on a compris pourquoi c'était important, on a quelques petites bases à connaître. On va appuyer un petit peu sur ces bases-là. Et justement, tu nous disais, Erwan, que c'était décentralisé. Est-ce que René, tu veux justement rebondir sur ça?
Oui, en fait, c'est une redite de ce que Erwan a dit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant SVN, c'est un modèle client-serveur, et ce que disait Erwan, on peut pas, si on n'est pas connecté au serveur, en gros, on peut pas faire grand-chose. Là, Git, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est complètement, on a le système en entier sur sa machine, donc on peut travailler de manière autonome. Dans le train, comme ce qui a été mentionné. Et voilà, ça va nous permettre de vraiment nous resynchroniser quand on le souhaite et quand on va avoir la connexion disponible par rapport au repository, entre guillemets, distant, central, potentiellement. Voilà. Et ça a un autre aspect intéressant, ça, mais j'en parlerai un peu plus tard.
Ok. Erwan, est-ce que tu peux nous parler juste, selon toi, quels sont les concepts essentiels à connaître?
Ah oui, parce que Git, alors si vous voulez vous faire mal à la tête, faut regarder le man, hein. Il est quand même très costaud, et puis il y a 12 milliards de sous-commandes, etc., avec des options qui sont parfois hyper tricky à utiliser. Mais en fait, sans aller jusque-là, en fait, il y a, comment dirais-je, il y a dans les bases à connaître, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans d'autres concepts, enfin dans d'autres SCM. C'est des concepts assez classiques. La notion de commit, la notion de branche. Donc le commit, c'est en gros l'incrément de code, de modification que vous avez fait. La notion de branche, bah, c'est justement le fameux monde parallèle qu'évoquait Christophe, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de modifier quelque chose de commun, bah, vous travaillez sur un environnement qui est issu de cette source et vous allez faire vos modifs et puis ça va vivre dans donc du coup dans deux branches possibles, enfin différentes. Donc le connaître cette notion d'univers parallèle, c'est quand même hyper important. Dès que vous utilisez des outils comme GitLab, GitHub, la notion de pull request ou de merge request, elle est indispensable aussi à connaître et à comprendre parce que c'est ça qui va vous permettre de travailler en équipe. Donc concrètement, une pull request ou une merge request, c'est justement ce côté, j'ai travaillé sur mon univers parallèle, maintenant j'aimerais bien que mes modifications de mon univers parallèle apparaissent dans l'univers principal du projet. Et donc du coup, ça fait, on crée donc une pull ou une merge request. Les tags qui sont en fait finalement des marque-pages qui permettent d'identifier facilement un commit dans l'histoire de votre repository. Et après, il y a encore plein de choses, mais déjà rien que connaître ça et être à l'aise avec ces notions-là, ça va vous permettre déjà de faire pas mal de choses. Et en fait, la suite, je pense qu'on l'apprend assez vite quand on est confronté à devoir faire des choses sur Git, et c'est là que Stack Overflow va vous sauver, parce que si vous avez une question sur Git, c'est sûr que vous allez trouver quelqu'un sur Stack Overflow qui a eu le même problème, et vous allez toujours trouver une réponse avec des fois des one-liners un petit peu bizarres, mais qui font ce que vous allez rechercher. Est-ce que vous êtes d'accord sur les notions de base à connaître?
Ouais, moi je veux juste rajouter une petite chose, c'est que une des misères en fait de SVN, c'était justement la gestion des branches. C'était vraiment pas, enfin c'était faisable, mais c'était toujours un petit peu tricky, on va dire. Et c'est le gros plus de Git en fait, c'est qu'une branche ça coûte rien, et il faut pas. Enfin moi souvent quand aux personnes je leur dis, n'hésitez pas à faire des branches, ça permet de sauvegarder un état, ça permet de de faire des essais, de faire plein de choses, et ça entre guillemets aucun coût. C'est un pointeur quelque part, donc cette facilité à pouvoir créer des branches, c'est vraiment un gros point fort de Git, quoi.
Ouais, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a aussi un truc dans Git dont on n'a pas parlé, c'est vraiment la performance qu'il a, notamment pour créer les branches et gérer en fait toutes les versions, parce que SVN c'était assez long, je me rappelle, hein, alors que Git c'est ultra rapide, tu crées une branche, pouf, ta branche. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Erwan, tu voulais rajouter un petit truc sur un... Tu voulais faire un petit auto-promo pour quelque chose?
Mais oui, mais bien sûr. J'anime des cours à côté de mon taf et il y a un des cours qui est une introduction à Git justement avec pourquoi c'est bien, les quelques bonnes pratiques, d'où ça vient, etc., avec un petit exercice très très simple, mais juste pour se forcer à utiliser l'outil et à faire des choses. J'imagine qu'on mettra le lien quelque part sur le site. Mais donc du coup voilà, c'est pas très long, c'est pas prétentieux, et ça, si ça peut vous aider, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est toujours ça de prix.
Ouais, on mettra le lien en description. J'en profite pour te dire qu'il n'y a pas de licence associée à ton document.
Ah faites-en ce que vous voulez.
Je ne sais pas si c'était prévu.
C'est what the fuck voilà, licence.
Ce serait bien de l'indiquer, la what the fuck licence.
Je vais rajouter ça.
Tout à l'heure, ouais, merci. Tout à l'heure, on a parlé de remote, de branche remote ou branche locale. René, est-ce que tu voulais nous parler d'un petit truc? Justement, à propos de ça, du remote update, je crois.
Oui, ouais, c'est un petit tips en fait. Ce qui est effectivement, c'est une des forces de Git aussi, c'est qu'on peut cloner un projet. Il y a une vraie volonté un petit peu philosophique de pouvoir prendre un projet, de le forquer, entre guillemets, pour en faire ce qu'on a envie. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là, globalement. Et du coup, on peut se retrouver parfois à avoir plusieurs remotes, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul remote, donc un un repository central identifié. Voilà, on peut en avoir plusieurs. Notamment, on a souvent ce cas sur GitHub. On peut avoir son propre projet. Enfin, on peut avoir un projet qu'on souvent on va le nommer upstream, qui est le projet avec le repository souvent en référence. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fork de ce projet-là, et on va avoir donc notre propre copie sur GitHub de ce projet-là. Et donc, on peut avoir deux remotes, un remote upstream et un remote qui va souvent s'appeler origin convention. Et voilà, donc après, ben, il y a une commande qui s'appelle git remote update qui permet de mettre à jour, enfin, d'aller se synchroniser, de récupérer les données des distants, donc de tous les remotes d'un seul coup. Voilà, plutôt que de faire git fetch origin, git fetch upstream, voilà, il y a un truc qui permet de le faire d'un coup. Voilà. Après, il y a des raccourcis dans git, genre git ouais. fetch moins all, voilà. Enfin, voilà.
On a dit qu'on essayait pas
voilà, d'entrer dans les commandes. Voilà, je donne pas trop de commandes, je vais éviter.
Ouais, il y a plein de commandes dans mon anti-sèche, donc allez télécharger voilà. mon anti-sèche. Hein, vous aurez plein de commandes, celles que j'utilise au quotidien.
Voilà, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'on peut avoir plusieurs remotes. Voilà. C'est vraiment ça qui est important.
Ouais, ça c'est vraiment vrai quand tu participes à un projet libre. Où tu veux contribuer, du coup, tu clones le projet, tu fais tes modifs sur ton projet, mais parfois, tu as besoin de récupérer le projet d'origine pour mettre à jour ta copie locale. C'est dans ce genre de cas que tu fais ça, n'est-ce pas ?
Oui, souvent, c'est ce cas-là, ouais, très souvent.
Bon, alors moi, je vais vous parler des commits, parce que les commits, c'est un vrai sujet. Quand vous faites des messages de commit, faut que j'arrête de dire, quand tu fais des messages de commit, si tu es novice, tu as souvent tendance à décrire ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu modifies ton README, souvent, en tout cas, je l'ai constaté très régulièrement, les novices de Git, et je l'ai fait, je pense que Erwan et René l'ont fait aussi, ont décrit ce qu'on fait, c'est-à-dire, je modifie le README, j'ajoute telle section au README, etc. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on fait de la paraphrase, parce que Git nous dit déjà ça. En fait, quand on regarde l'historique et dans un commit, on a plein d'informations, y compris quel fichier on a modifié, qu'est-ce qu'on a modifié comme ligne, etc. Donc, ça ne sert à rien de dire ce que Git nous donne déjà comme information. Par contre, ce que Git nous donne pas comme information, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les modifs. C'est quoi la raison profonde de cette modification? Je prends l'exemple du README. Je vais modifier un README pour ajouter une licence. Donc l'information importante, c'est pas modifier le README pour ajouter la licence, c'est mise en place de la licence GPLv3, par exemple. Ça, c'est une information importante, plus que j'ai modifié le README. Et donc, pour éviter de vous casser la tête à écrire des messages de commit, si vous voulez utiliser une convention, parce qu'on aime bien les conventions dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle les commits conventionnels ou les conventional commits. Je vous mets le lien en description. C'est une convention de nommage des commits qui va vous faciliter la vie. Et au bout d'un moment, quand vous l'aurez pris en habitude, vous vous poserez même plus la question de qu'est-ce que je vais mettre dans mon message de commit, parce qu'il y aura peut-être plein de petites infos cumulées dans cette convention qui vont vous aider à créer des messages de commit pertinents et surtout assez courts.
Ouais, je peux ajouter deux petites choses. Ce que tu dis là par rapport à la description des commits, etc. C'est aussi vrai pour les commentaires de code. En fait, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est de transmettre l'intention de ce qu'on veut faire. Et voilà, il faut essayer de garder ça en tête pour faire un bon message de commit. Et l'autre point, c'est que conventional commit, il y a aussi un certain nombre d'outils qui, si on respecte la convention, justement, vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour, par exemple, faire un changelog automatique ou des choses comme ça. Donc ça c'est un peu ce double avantage.
Exactement, et j'en parlerai plus tard sur la chaîne YouTube. J'ai prévu de faire quelques vidéos là-dessus sur les changelogs automatiques, l'intégration des changelogs dans les releases, etc. Vous verrez. Ça va arriver. René, écoute, tu as encore plein d'infos à nous passer dans les bases à connaître. Tu voulais nous parler du contexte local.
Alors on va dire qu'on a mis ça dans les bases, mais c'est peut-être aussi potentiellement un piège. Tout à l'heure, je disais effectivement, donc c'est décentralisé, on a l'ensemble du du système entre guillemets sur sa machine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un git diff, en fait, pour comparer en fait ce qu'on a et entre ben, ce qu'on est en train de faire et le remote, en fait, faut bien comprendre que ce qu'on compare en fait, c'est son local et une copie de la branche remote. C'est-à-dire, à un moment, quand c'est la dernière fois qu'on s'est synchronisé, on a ramené une copie du remote et notre comparaison va se faire entre donc notre branche locale et la branche remote qui est une copie de ce qu'il y avait. Ce qui veut dire que si on ne s'est pas resynchronisé entre temps, on a juste une des confusions, c'est parfois on se dit, bah, je suis en train de faire une différence entre mon local et mon distant, mais non. Pas forcément, si ça n'a pas été remis en resynchronisé entre temps, on est juste en train de se synchroniser sur une version qui n'est peut-être plus à jour. Donc ça, c'est un piège et voilà, c'est aussi pour renforcer cette notion de distribuer. Une des bonnes pratiques, je dirais, c'est de se synchroniser assez régulièrement pour être sûr que quand on fait une copie, ben on ait une version suffisamment à jour.
Et tu voulais nous parler aussi de la réécriture de l'historique.
Bah pour moi, ça c'est aussi une énorme force de Git en fait. C'est cette possibilité de réécrire l'historique et de supprimer par exemple des commits. Mais donc une des bonnes pratiques, c'est quand même de commiter assez régulièrement et voilà. Mais parfois, on peut se rendre compte que sur les 15 commits qu'on a fait, il y en a entre guillemets 3 qui sont pertinents. Dans le sens en termes de description, parfois on peut aussi commiter pour sauvegarder un état et du coup en fait ben, ça rend l'historique assez difficile à lire et donc avec Git il y a la possibilité de modifier cet historique en le en fusionnant des commits parfois en supprimant parce que parfois ils peuvent ne pas avoir de sens ou en ajoutant parfois aussi on peut aussi en ajouter. Bref, on peut vraiment raffiner entre guillemets notre historique et rendre quelque chose d'assez propre. Et un exemple, c'est enlever les commits qui disent bah tiens, j'ai changé une typo. Voilà, c'est peut-être pas un commit très pertinent parfois. Voilà, on peut vraiment affiner tout ça.
Ouais, quand on fait du développement, qu'on soit ops ou dev, à un moment donné, avant de soumettre notre merge request ou notre pull request, on va tout relire, on va essayer de réorganiser ça. Ça fait partie du refactoring, on peut refactoriser aussi l'historique de commit. Ça me permet d'embrayer tout de suite sur la section suivante.
Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. Après, ça, c'est aussi très dépendant des projets, en fait. Dans le monde de l'open source, par exemple, il y a des projets qui vont demander à ce qu'une modification, ce soit un commit. Donc, faire squasher, ce qu'on dit souvent, on dit squasher les commits. Donc, ça, c'est des règles un peu, il y a des règles à définir, entre guillemets, dans l'équipe sur ce que tu disais, le conventional commit, sur l'écriture des commits, mais aussi des règles sur la manière dont on va amener les modifications.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Je pense qu'on va revenir dessus dans la section équipe. Donc, du coup, on va parler des pièges à éviter. Et justement, vu qu'on parle directement de la réécriture de l'historique, en fait, il y a un truc à bien comprendre, c'est que chaque commit est unitaire, mais chaque commit a une histoire. Et donc, dans son histoire, chaque commit, il connaît un parent. Et si on réécrit l'historique, forcément, le parent, il change. Je m'explique. si on a trois commits et qu'on quatre commits et qu'on fusionne les deux commits du milieu, le dernier commit, il a perdu son papa ou sa maman et du coup, il change parce que du coup, l'ID du commit va changer. Ça, c'est important à l'avoir en tête quand on fait une réécriture d'historique. Le commit va changer. Ce sera plus le même. Donc, c'est pour ça que quand vous faites des rebases interactifs ou des rebases tout court, quand vous essayez de pousser votre branche, Git, il va vous dire, ah non, mais attends, t'as pas le droit parce que la destination, elle est pas en raccord avec ce que t'as, elle est en avance, etc. Et il vous propose souvent de faire un git pull, donc de récupérer la distance, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ayez confiance en vous. Vous savez que vous avez modifié votre historique. Vous savez que les commits ont changé et vous faites un push force comme Yoda. Oula. Vous forcez le commit. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Vous avez des pièges à partager?
Oui.
Tous les deux?
Bien sûr. Typiquement, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Attention, quand on fait un rebase ou dans ce qu'on disait, on réécrit l'historique ou quand on fait un cherry pick. Un cherry pick, c'est prendre un commit à un endroit bien précis. Ça change les commit ID, tout simplement pour la raison que tu as mentionné juste avant, c'est que le parent potentiellement ne sera plus le même. Donc, il n'y aura pas le même commit ID. Ce qui fait que dans certains cas, si on se débrouille mal, on peut se retrouver avec des historiques qui ont deux commits dans un historique qui ont le même libellé, mais pas le même commit ID. Voilà, ça fait un peu des pièges qui arrivent. Moi, ce que j'encourage à faire aussi, c'est quand même un outil complexe et surtout au début, c'est à chaque fois qu'on passe une commande, essayer d'aller voir que la commande a bien produit ce qu'on espérait sur dans l'outil. Exemple, si on fait une réécriture des commits, faire ensuite aller voir le log, faire le git log pour s'assurer que la réécriture elle est celle qui était espérée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, un piège assez classique. Attention aux éditeurs. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais souvent les développeurs utilisent Git à travers leur IDE, donc IntelliJ, VS Code, etc. Alors IntelliJ, je pense que ça se passe pas trop mal maintenant. VS Code, je sais pas trop, j'espère que c'est corrigé, mais il y a eu parfois des soucis quand on fait un déplacement de fichier. Donc la commande c'est gitmv, et en fait quand on fait un gitmv, Git va comprendre qu'en fait on a renommé un fichier ou on l'a déplacé, et donc il va conserver l'historique de comment s'appelait le fichier avant et le nouvel historique avec le nouveau fichier. Et il y avait certains éditeurs qui faisaient pas ça bien, en faisant plutôt en effaçant le fichier, en recréant un nouveau, et donc quand il a changé de nom, on perdait l'historique. Voilà.
Je vais aller plus loin que toi en fait. Faites attention aux éditeurs graphiques de Git. Quand vous commencez, moi je vous conseille, je sais que il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi je vous conseille de poncer la ligne de commande pour bien comprendre ce que vous faites, pour bien connaître les commandes. Et une fois que vous connaîtrez bien les commandes, vous pourrez passer sur des éditeurs graphiques si vous avez envie. Mais vous verrez tout de suite à la longue que vous n'aurez plus envie et que la ligne de commande est la plus efficace. En fait, la ligne de commande va vous permettre de bien comprendre ce que vous faites. Vous pourrez vous relire, vous pourrez relire la ligne de commande. Vous pourrez vous dire, est-ce que c'est ça que je veux faire? Vous aurez moins de surprises.
Ouais, je plussois complètement. Moi, c'est le conseil que je donne. Alors, il n'est pas forcément suivi, mais ouais, je trouve qu'on a beaucoup plus la maîtrise avec la command line. Voilà. Puis dernier, enfin peut-être pas tout à fait le dernier, mais voilà, un autre piège à éviter. Grand classique, Git, c'est fait pour gérer des sources, donc du fichier texte. Donc, faut éviter de pousser des gros binaires. On peut mettre quelques binaires. Il y a d'ailleurs quelque chose qui s'appelle un fichier qui s'appelle .git attributes qui permet de définir qu'un fichier est un binaire. Du coup, ça va simplifier un peu la gestion pour Git. Il va pas forcément faire des diffs dessus parce que faire un diff sur un binaire, c'est pas forcément très, très utile. Voilà. Mais s'il y a des gros binaires à gérer, à noter qu'il y a deux projets qui existent, un qui s'appelle GitLFS. Et puis un autre qui s'appelle Git VFS qui est fait par Microsoft. Et en gros, ce que ça fait, c'est que Git va stocker un peu des pointeurs pour ces gros fichiers qui seront stockés eux sur un file system. Voilà. Donc voilà, éviter de mettre des gros binaires, c'est pas très.
D'ailleurs, Git LFS, j'allais dire que Git LFS était intégré à GitLab. Vas-y, Airwatch, je te laisse la parole.
Je voulais juste rajouter que bah, y a binaire, mais il y a aussi bêtement les images. Hein. Sur les images, ça marche pas forcément bien non plus. Et puis pour les binaires, il y a la fameuse histoire de Stop Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient dans le cahier des charges, ils devaient versionner Stop Covid. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un repo Git avec une archive où il y avait le code, mais donc le code était dans l'archive, donc il committait le binaire, donc autant dire que Git ne sert à rien dans ce contexte-là.
Bah, tu as la parole, garde-la, parce qu'apparemment tu as plein de pièges à éviter, à conseiller à notre
auditeur. Oui, alors y en a que vous avez, que vous avez cité, hein, le coût des commits intelligibles. Moi je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que les commits, il y a le, je ne sais plus comment le terme exact, mais il y a la première ligne, l'espèce de header, et après vous pouvez l'enrichir. Donc quand vous faites un git commit -m, vous mettez le message, et après si vous mettez -e, ça va vous ouvrir votre éditeur de texte et vous pouvez rajouter autant de lignes qu'il le faut. Ça peut être pratique des fois pour décrire des choses qui ne tiennent pas dans un commit message classique. Et donc, bien sûr, intelligible et éviter tout ce qui a été cité par René et Christophe auparavant avec les bugs, oups, oh là là, j'ai oublié des trucs, etc. Je voulais aussi rappeler que Git sous Windows, alors peut-être que ça a changé, mais en tout cas, pendant très longtemps, c'était pas la fête, hein, particulier à cause des majuscules et tout. Hein, y avait plein de trucs sur lesquels ça marchait pas bien. Alors je sais pas si depuis il y a des changements, mais en tout cas pendant très longtemps c'était galère.
Et je précise, justement, tu parles de Windows, j'ai eu le cas parce que j'ai travaillé avec un client qui m'obligeait à avoir un VPN qui fonctionnait sous Windows, et j'ai constaté que les retours chariots, évidemment, hein, les retours chariots étaient changés à chaque fois, et ça c'est parce que moi je développais avec ma station de travail Linux, et du coup je passais sur une VM Windows pour committer, parce que derrière un proxy, etc. Bref, je vous fais pas les... Mais du coup ça changeait mes retours chariots. Donc attention à Windows, prenez votre Windows, jetez-le et installez Linux sur votre machine.
C'est particulièrement pénible ce que tu dis, parce que ben oui, effectivement, le retour chariot, ce qui peut se passer, c'est que dans certains cas, Git peut croire qu'en fait toutes les lignes ont changé. Du coup, on ne voit plus vraiment. Voilà, c'est très très pénible. Ben, ça s'améliore. Ouais, après, il y a eu beaucoup d'améliorations sur le.
J'ai peut-être été un peu vite, parce que si tu débutes en Git, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est qu'un retour chariot. Donc il faut savoir que dans ton fichier texte, il y a du code. Et donc chaque caractère est un code, et le retour à la ligne, le retour chariot, est un code. Et c'est pas le même code sous Linux que sous Windows. Et donc ça pose en effet des problèmes. Le fameux CTRL M qu'on voit sous Linux quand on a des retours chariot Windows. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si tu l'as déjà vu, c'est ça.
Dans les autres trucs que je voulais partager, c'est un truc qui paraît idiot, mais s'il vous plaît, lisez les outputs des commandes Git. C'est souvent très bien fait, et les informations que ça vous donne sont souvent très très pertinentes. Et alors il y a le classique, quand vous faites un Git statut par exemple, ça va vous dire quoi faire après si vous voulez committer vos fichiers, si vous voulez au contraire ne pas conserver les modifs, ou etc. Mais même sur des opérations qui peuvent paraître intimidantes, comme justement résoudre des conflits quand on doit merger par exemple une branche ou rebase une branche, et ben suivez ce qui est écrit. C'est vraiment très très bien fait, et souvent je me suis aperçu que, en tout cas dans les élèves que j'ai, des fois ils me disent je comprends pas ce que je dois faire, je suis bloqué, et en fait il y a juste marqué t'as un conflit, est-ce que tu veux garder telle version, est-ce que tu veux garder l'autre version, voici les, et on guide donne même dans l'output il y a souvent la commande à taper, donc vraiment faut lire ça, parce que c'est vraiment un truc Enfin, c'est basique hein, de lire les logs, hein, mais il faut vraiment le faire.
Attends, je suis profondément d'accord avec toi et j'ai remarqué exactement le même souci. Donc, ça veut dire que c'est commun chez tous les novices, lisez les sorties de Git. Surtout qu'en plus, si vous êtes sous Linux, voire même sous Windows, je crois que ça le fait, vous avez des couleurs. Donc, c'est encore plus lisible. Par contre, attention quand même, ne faites pas tout ce que Git vous propose de faire. Réfléchissez, parce que c'est vous qui devez commander à Git et pas le contraire.
Exactement. Un autre truc qui paraît évident, mais qui est toujours bon à rappeler parce que je vois ça trop souvent, qui est ne pas commiter des secrets en clair dans vos repos. Il y a plein de méthodes pour ne pas avoir à faire ça, ou commiter des choses qui sont chiffrées, etc. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on fait du Ansible, souvent on utilise le Ansible Vault pour chiffrer des fichiers avec des secrets. Mais donc, du coup, évitez ça. Et je crois que c'était tout. Non, et puis,
alors, justement, nous, on utilise pour ça des hooks de pré-commit. J'en ai parlé dans un de mes lives, donc ça permet les hooks, ça permet Git, il y a des événements y compris en local, et donc ça permet de déclencher des actions sur l'événement de commit, et donc le hook, si vous le codez évidemment, vous allez pouvoir regarder si c'est un secret, et si c'est un secret qui n'est pas chiffré, vous allez pouvoir arrêter là, dire attention, ton secret il n'est pas chiffré, tu peux pas faire de commit, chiffre-le d'abord, voire, si vous allez plus loin, le chiffrer automatiquement.
Donc voilà, et puis après il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut éviter facilement en utilisant intelligemment le gitignore, qui est donc un espèce de fichier dans lequel vous dites quoi qu'il arrive ce truc là, il faut pas que ça se retrouve dans mes commits, et ça peut, enfin souvent quand on le set pas très bien, on peut avoir des surprises quand on fait des ajouts un peu massifs, on va dire, et donc du coup faites attention à bien utiliser ça sciemment.
Alors, on a parlé un petit peu du push force. René, tu voulais nous en dire un petit mot?
Oui, bah ça c'est un classique. Donc alors moi je trouve que bon le comment dire, la façon dont c'est nommé est, voilà, peut-être pas terrible, -f pour force, mais un des pièges c'est il faut jamais faire un push force forcément sur un dépôt qui est public, donc il faut penser, alors je pense que c'est globalement le cas sur GitLab, les branches sont souvent protégées, mais il faut se méfier, voilà, la branche entre guillemets de référence doit être protégée, histoire que personne ne puisse la réécraser par mégarde. Voilà.
Oui, alors quand tu parlais de dépôt public, tu voulais dire la branche principale du dépôt, parce qu'on peut quand même faire d'un push force sur les branches à côté.
Oui, bien sûr, sa branche personnelle, ouais, moi, alors c'est ça, c'est difficile de trouver un nom, mais entre guillemets, la publique, c'est entre guillemets une branche qui va être récupérée par d'autres, par les différents contributeurs. Et c'est en ce sens-là. Et une branche privée, c'est sa branche personnelle. Donc sur sa branche personnelle, il n'y a aucun problème, on fait faire ce qu'on veut. Par contre, il faut absolument éviter de faire un push force sur la branche qui est récupérée par tous les autres. Sinon, on va changer potentiellement les commit ID. Et tous ceux qui sont basés sur qui ont entre guillemets récupéré le repo, ça a plus de sens parce que les commit ID ont changé et du coup c'est le gros bazar. Donc il y avait un document sur, j'essaierai de remettre le lien, il y avait un document entre guillemets sur la doc de Git qui mettait quand on arrivait un petit peu dans les danger zones, donc il y a parfois des erreurs qu'il vaut mieux laisser plutôt qu'essayer de les corriger parce que ça peut encore empirer encore plus la situation. Et juste un autre petit truc, je ne sais pas si vous en avez parlé, de BFG.
Attends, juste, je vais continuer là. J'avais fait une vidéo justement sur comment protéger et sécuriser les dépôts GitLab, et je parle justement de la protection des branches principales. Comment est-ce qu'on fait? Et je pense qu'on peut faire la même chose sur GitHub. Vas-y, je te laisse la parole pour BFG.
Oui, bien sûr. BFG, en fait, c'est un outil fait par GitHub justement pour justement aller effacer les secrets dans un repo Git, parce que bien sûr, il suffit pas de l'effacer dans le dernier commit. Sinon, ce serait trop facile. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui sont, eux, faits pour aller chercher les secrets dans les repositories Git. Et pour effacer donc un secret qui a leaké proprement. Donc, il y a un outil qui est fait qui s'appelle BFG, qui permet de faire ça de manière assez simple, parce que sinon, c'est assez compliqué pour aller purger un peu tous les potentiels commits qui contiennent le secret. Voilà, un outil à connaître, mais je rejoins Erwan sur le fait que la meilleure des façons, enfin le mieux, c'est de pas committer de secret.
Donc utiliser des gitooks.
Exactement.
C'est important les gitooks. Tu l'auras compris, en fait, il y a beaucoup de pièges à éviter hein, quand on commence Git, mais après tu vas devenir un ninja pour esquiver ces pièges-là. Et quand tu deviens un ninja pour esquiver ces pièges-là, tu peux commencer à travailler en équipe. Bon, tu as commencé avant, mais là vraiment, tu vas commencer à travailler en équipe. Et donc, il y a plein de choses à dire sur Git et le travail d'équipe. Et c'est Erwan qui va commencer cette partie-là.
Oui, bah, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est que bah, Git, une fois que vous êtes à l'aise, en fait, il y a quand même pas mal de pièges à éviter. Donc, ça veut dire que quand on travaille en équipe, il faut se synchroniser pour être sûr de ne pas reproduire ces pièges. Donc, ça, c'est la première étape. Et après, il se passe que comme vous allez travailler ensemble avec votre équipe, bah, il va falloir avoir une méthode de travail autour de votre repo. Et c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le flow en fait de développement. Et le flow de développement, en fait, du coup, c'est ça. Ça va être votre façon en fait de faire des incréments en gros sur la branche principale de votre projet de façon collégiale avec vos collègues. Donc je ne sais pas si vous avez une autre définition ou si vous voulez apporter une précision à ça déjà.
Oui, j'ai fait une vidéo justement sur les flux de développement Git, lequel choisir, et j'en ai présenté trois. Justement, trois flux qui sont assez courants là-dessus, donc je vous mets le lien en description.
Bah, du coup, moi, je peux parler très brièvement de ce que je fais dans la boîte où je suis actuellement. Donc, comme disait Christophe, c'est qu'il y a plusieurs flows, on va dire, populaires, qui sont souvent liés à la plateforme sur laquelle vous développez, puisqu'il y a un, il y a, il y a un, il y a un GitHub workflow, il y a un GitLab workflow, etc. Enfin, flow, pardon. Et souvent, bah, comme dans beaucoup de cas, bah, l'idée, c'est pas forcément d'appliquer les trucs bêtement d'un flow plutôt qu'un autre. C'est d'essayer de prendre les bonnes idées des uns et des autres pour forger ce qui vous intéresse le plus. Donc, très brièvement, nous, chez Toucan, ce qu'on fait, c'est que, en gros, à chaque fois qu'on veut faire un incrément de code, bah, on se crée une branche sur laquelle on va faire notre développement. Donc, sur laquelle on va pouvoir faire autant de commits qu'on veut. D'ailleurs, souvent, on ne fait pas très attention aux commits qu'on fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne font pas très attention aux commits qui font dans leur branche qui est personnelle. Une fois que leur code est convenable et que ça passe la CI, bah, ils demandent une review à deux collègues. Les collègues valident tout ce qui va bien sur l'approche de code, etc. Et donc après arrive le moment de, OK, j'ai une branche avec plein de changements que je veux maintenant rapatrier sur la branche principale, donc qu'est-ce que je fais? Nous, personnellement, ce qu'on a choisi, c'est pour ça qu'on se permet de dire, bah, on s'en fiche un petit peu des commits que tu as fait sur ta branche perso, c'est qu'on squash and merge, c'est-à-dire que toutes les modifications que la personne a fait sur sa branche, bah, on en fait un seul commit sur lequel on met comment dirais-je, un titre explicite et ce titre, enfin ce commit explicite est rapatrié du coup sur la branche sur la branche principale. Donc on fait du squash and merge comme ça et ça permet du coup d'avoir un historique Git relativement enfin, plus clair, entre guillemets, puisque du coup, c'est un peu ce que expliquait René un peu plus tôt, c'est que chaque commit correspond à un changement, entre guillemets, important du code. Et donc, du coup, ça évite tous les petits commits intermédiaires qui souvent sont pratiques pour la review, puisque c'est toujours plus facile de voir des petites choses plutôt qu'un gros bout de code. En revanche, qui sont souvent pas forcément pratiques pour l'historique et suivre la vie du projet en termes de big picture. Vous avez vous appliquez quel flow et pourquoi, René?
Alors globalement, moi c'est Git branching model plus ou moins standard. Enfin, la plupart des clients, voilà, on fait le Git flow classique, voilà, parce qu'on a souvent obligé de maintenir quand même plusieurs versions en parallèle parce que ce qui est déployé en prod n'est pas déployé ailleurs. Voilà, c'est plus ou moins le Git branching model standard qu'on trouve un peu partout, avec des fois quelques petites modifications sur les noms des branches, des choses comme ça.
Nous, on est plutôt sur le GitHub Flow, même si on travaille sur GitLab. Donc, ça veut dire qu'il y a une branche principale et des branches de fonctionnalités. Et nous, depuis GitLab, notre flow, il est hyper clean parce qu'on crée les issues. Donc, on essaie de les faire les plus petites possibles. Et en fait, on utilise GitLab qui nous crée la branche, on récupère la branche. On travaille, on envoie la branche, enfin, on envoie nos commits sur la merge request qui a été créée directement depuis l'issue, ce qui permet de tout fermer à la fin. On essaie aussi de squasher les commits, sauf parfois, et c'est intéressant de garder 2-3 commits plutôt qu'un seul. Donc ça, c'est en fonction du travail qu'on est en train de faire. Ça dépend. Et une fois qu'on a fini, on merge, on fait des commits de merge chez nous.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a les commits de fonctionnalité plus le commit de merge. Donc à chaque fois qu'on fusionne, on a un commit particulier qui nous dit voilà, il y avait une branche à ce moment-là, et ben elle a été fusionnée. Ça nous permet de garder l'historique des branches, et c'est sur ces commits de merge qu'on va pouvoir nous aller mettre nos tags de release par exemple. Voilà comment on fait chez nous. Et je sais que il y avait un débat dont on va parler, qui est le débat merge rebase. Et donc je vais vous dire justement, puisque je suis dans notre méthode de travail, chez nous, donc merge rebase. Merge, ça fait un commit, souvent, alors que rebase, on réécrit l'historique pour changer le commit d'origine d'une branche. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on rebase depuis la branche principale nos branches, ce qui fait que on n'a pas de commit de merge sur nos branches. Par contre, quand on vient fusionner nos commits de fonctionnalité sur la branche principale, on a un commit de merge, ce qui nous permet d'avoir uniquement les commits de merge de fonctionnalité.
Oui, globalement, pareil pour... moi, j'aime bien cette option-là, parce que je trouve qu'une des forces, c'est que ça rend souvent l'historique plus facile à lire. Et plutôt de cette école-là aussi.
Bah, toi aussi, Erwan, apparemment, opines du chef.
Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais après, comme je vous disais, là où je suis, nous, on a ce côté... sur les branches perso, en gros, tu fais ce que tu veux. Et tu fais ce que tu veux aussi pour te mettre à jour par rapport à la branche principale. Donc, tu rebases, tu fais ce que tu veux. Par contre, du coup, quand on rapatrie dans l'autre sens, donc de la feature vers la branche principale, là on est sur le squash and merge, et que du coup on n'a pas ce commit de merge comme vous décrivez. Mais moi j'ai pas trop d'avis sur. Je trouve que dans les deux cas c'est lisible. Le seul truc que je trouve bien dans le squash and merge, c'est que justement les gens qui font pas forcément le bon effort côté de leur branche perso, au final ça se voit pas quoi.
Ouais, en fait, tu vois moins le problème parce que justement tu squash et merge. Du coup, à chaque fois, tu as un commit. Du coup, c'est pas mal. Mais si tu le fais pas, voilà, ça, tu vas avoir un peu des. Si tu rebases pas, entre guillemets, tu peux avoir des espèces de. Je sais pas comment dire. D'interlivre. Hein, je sais pas forcément le mot. Entre guillemets, tu as les commits qui sont pas agencés proprement.
Ouais, oui, exactement. J'ai vu ça parfois. J'ai travaillé parfois avec des développeurs qui faisaient pas ça, qui mergeaient à l'intérieur de leur branche. Et puis après, quand tu remergeais dans la branche principale, ça faisait un graphe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé du graphe, mais c'est un outil que j'aime beaucoup. Le graphe nous permet de voir comment les commits sont agencés. Quand on fait pas des squash and merge, on a un graphe souvent. Quand on fait un squash and merge, on n'en a pas parce que c'est tout beau, tout propre, tout droit. Mais quand on le fait pas, on peut avoir des graphes. Donc on voit les branches, les anciennes branches qui reviennent, qui se repiquent, etc. Et le graphe, quand vous débuguez Git, c'est essentiel. Comme ça, vous pouvez comparer votre serveur et vos branches locales quand vous êtes perdu dans vos branches, parce que ça arrive. Les néophytes, ils se perdent dans les branches et ils ont des problèmes quand ils font des actions. Et du coup, en regardant le graphe, on voit les problèmes qui se sont passés. Donc, utiliser le graphe, c'est bien.
Après, il y a une petite astuce aussi, c'est quand on rapatrie justement, qu'il y a plusieurs commits, on peut le faire en fast-forward. Du coup, là, tous les commits vont se retrouver dans le graphe aligné. Et parfois, ça peut être sympa justement de le faire non fast-forward de manière voulue pour bien matérialiser dans le branche, dans le graphe, que c'est une branche de features avec un ensemble de commits qui a été mergé. Voilà. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs, ça, mais bon.
Erwan, tu voulais nous parler d'alias Git.
Ouais, c'est comme on le disait un peu plus tôt, les Git, ça peut être vite intimidant. Il peut y avoir les commandes peuvent être quand même un peu complexes parfois, ou du moins difficiles à retenir. Et surtout, des fois, vous allez faire des commandes, piper des trucs, etc., qui va vous répondre à un besoin spécifique et tout. Et à retrouver, du coup, c'est souvent l'angoisse. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des alias dans Git. Et j'ai un peu d'autopromo pour tout quand j'avais écrit un article où, justement, je donnais quelques alias que moi, j'ai dans mon... que j'ai dans mon environnement. Et par exemple, moi, il y a un truc, alors ça va pas être très démago, mais je supporte pas le git blame. Je comprends pas pourquoi on a appelé ça blame, alors que moi je veux au contraire féliciter les gens. Je veux pas chercher qui a écrit un truc en le pointant du doigt. Donc moi j'avais mon alias git blame, c'est git congrats par exemple. Et ça c'est pour la blague, mais après il y a des trucs un peu plus intéressants pour retrouver. Moi souvent je recherche des commits que moi j'ai fait. Et souvent c'est un peu galère, il y a un alias pour ça qui vous permet de récupérer uniquement vos propres commits, etc., avoir des stats sur les committeurs sur des périodes, etc. Donc c'est un petit truc sympa et encore une fois ça montre à quel point la ligne de commande avec Git elle peut être hyper puissante et vous pouvez faire des trucs chouettes et du coup au lieu de vous en rappeler vous créez des alias. Vous en avez vous ?
Alors oui. Moi, j'en ai, et je vois que tu es fan de Besson, en voyant tes alias. On trouvera le lien en description. Ouais, moi, j'ai des alias. Moi, j'utilise OMYZSH comme shell. OMYZSH, c'est merveilleux. Alors, du coup, je spoil un peu la partie productivité, mais OMYZSH, c'est merveilleux. Et du coup, dans OMYZSH, il y a plein d'alias sympas. Par contre, je déconseille d'utiliser les alias au début quand on commence Git. Faut vraiment taper les lignes de commande pour bien les comprendre, pour savoir ce qu'on fait. Et après, on peut utiliser les alias parce que on sait que les alias correspondent à quoi. Si on commence à utiliser les alias directs, on sait pas ce qu'on fait, en fait. Par exemple, moi, j'ai un ggpush. Mon ggpush, ça me permet de pousser sur la branche sur laquelle je suis sur le dépôt distant. C'est un git push origin ma branche. Et ben, si tu sais pas ça, et si tu tapes ggpush au bout d'un moment, si tu vas aller sur un terminal où il n'y a pas le ggpush, tu vas taper ton ggpush et puis tu vas te dire, mais, pourquoi ça marche pas? Voilà, petite info.
Ouais, c'est bizarre, moi j'utilise pas d'alias en fait. Bizarrement. Mais je pense que c'est pour justement mieux retenir les commandes et puis des fois je vais dépanner d'autres personnes, du coup ils ont pas forcément ces alias là, du coup c'est voilà. C'est un des trucs que je fais pas forcément.
Justement, on parlait tout à l'heure de flux et de fusion, et parfois on a des merge conflicts, donc des conflits de fusion.
Oui, alors ben.
Et tu voulais nous en parler,
Rudy. Oui, excuse-moi. oui, en fait, c'est effectivement l'intérêt de Git, c'est effectivement de nous aider quand il y a des conflits. Donc un conflit, c'est quand deux portions du même fichier ont été modifiées, par exemple, par deux personnes différentes. Et donc là, il n'y a pas de magie, Git va nous demander quelle est la vérité, hein, qu'est-ce qui est le code valide, il va falloir gérer ce conflit. Maintenant, c'est un petit peu le corollaire de ça, entre guillemets, c'est que Git c'est un super outil, c'est super puissant, c'est peut-être le meilleur outil du monde pour gérer nos sources, mais ça n'empêche pas de faire tout le travail amont côté gestion du projet sur le découpage des features, essayer de les découper le plus fin, enfin essayer de faire des découpages les plus fins possibles pour limiter la taille des changements. Donc ça fera des commits plus petits, plus faciles à intégrer. Et puis ben aussi de la même manière, si on donne la même chose à faire à deux développeurs, forcément ça va faire des conflits. Donc voilà, malgré qu'on ait un outil extrêmement puissant, il y a toujours une grosse partie du travail d'essayer de découper au mieux les changements et les nouvelles features qui vont arriver dans la codebase.
Eh ben, on va parler alors de productivité, et je vous ai un peu spoilé ça, parce que je vais vous parler de Oh My ZSH. Alors, Oh My ZSH, c'est un surplus de ZSH. ZSH, c'est un shell script. Non, excusez-moi. C'est tard, là. Il est 21h passé, là, il est tard. C'est un interpréteur de commande qui remplace le bash ou le shell, si vous avez le shell. Et Oh My ZSH, ça rajoute des fonctionnalités en plus, et notamment tout un tas d'alias, tout un tas d'outils et de plugins. Et moi, j'utilise un thème particulier qui s'appelle le thème Agnoster, que je vous conseille, qui se base sur la powerline, donc qui est une ligne de prompt, en fait, avec des couleurs, et qui vous donne tout un tas d'informations lié à Git. Notamment, vous savez tout de suite, quand vous êtes dans votre terminal, si vous avez des fonctionnalités, enfin si vous avez des modifications qui ne sont pas versionnées, si vous avez mis des modifications dans l'étape de côté, mais que vous n'avez pas committé, ou si ou sur quelle branche vous êtes. Ça, c'est essentiel, parce que si vous ne savez pas sur quelle branche vous êtes, et si vous faites confiance à votre cerveau, vous allez vous planter. C'est évident. Donc moi, je vous mets les liens de Oh My ZSH en description. Et si vous êtes sous Linux, je vous conseille de l'utiliser. Et si vous n'êtes pas sous Linux, je vous demande ce que vous faites là à écouter Radio DevOps à force de vous dire de passer sous Linux. Je troll un peu, mais je vais laisser la parole à René.
Alors, ça a mis ça dans l'onglet productivité. Donc oui, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de commandes qui... Il y a plusieurs manières souvent de faire les choses, et il y a des commandes, plusieurs raccourcis. Donc j'avais mentionné tout à l'heure le fameux git remote update qui peut avoir un équivalent avec git fetch-all, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. C'est à la fois, à mon avis, une force, mais aussi peut-être une faiblesse, surtout au début. La command line est parfois plein de raccourcis, mais il faut un peu se méfier de ça, et parfois la consistance aussi des commandes. Pour moi, c'est un autre défaut, peut-être un peu douteuse, même si il y a quand même, malgré les, en fonction des versions, des nouvelles versions, il y a des choses qui s'améliorent.
Tout à fait. Et moi, ce que je peux vous dire pour améliorer votre productivité, c'est il faut t'entraîner avec Git. Et ça ne doit pas devenir une douleur. L'utilisation de Git, ça doit devenir une habitude. Et donc, pour ça, je vais faire de la pub pour un de mes concurrents. Du coup, je vais vous parler d'Atlassian. Atlassian qui édite Bitbucket, entre autres. Et donc, ils ont un site d'entraînement à Git qui est assez bien fait. Il y a plein d'infos dessus. Donc, je vous mets le lien en description. Allez-y. Et puisque j'ai la parole, je vais la garder. Tout à l'heure, on a parlé des Git hooks. Et donc, moi, je ne peux que vous encourager à mettre des linters dans vos Git hooks. Et notamment, je vous en ai décoté quelques-uns, il y a le commit lint qui vous permet de linter vos commits conventionnels, on vous en a parlé, vos messages de commit, pour voir s'ils sont en rapport avec ce que vous avez dit. Et puis sinon, je vous mets d'autres linters, il y a git lint et pre-commit. .com, qui sont en fait des linters que vous pouvez utiliser en fonction de comment vous décidez de faire vos commits. En fait, vous pourrez les linter avant de les envoyer sur le serveur. Ce sera pas mal. Est-ce que vous avez d'autres conseils de productivité?
Moi, je veux juste dire que les Git hooks ne se substituent pas à la CI. Et ça, on le voit trop souvent.
Non, c'est vrai, c'est un complément essentiel pour éviter d'attendre le retour de la CI. Mais si vous n'avez pas de complément en productivité, et je vois qu'on discute quand même depuis 1h15, je vous propose qu'on s'arrête là. Et on voulait parler un tout petit peu, aborder quelques mots pour vous faire un teasing sur un prochain épisode qu'on va vous faire. Mais Git, du coup, nous a apporté pas mal de choses, et notamment nous a apporté le GitOps qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Et je pense qu'on fera un épisode spécial sur le GitOps l'année prochaine. Enfin, non, cette année, puisque quand on enregistre, on est en 2021, mais quand vous écoutez, vous êtes en 2022. Donc, voilà. Avant de laisser le dernier mot à mes chers co-animateurs, si tu as apprécié ce podcast et si tu as appris des choses et si tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Liberapay. Liberapay, c'est une plateforme de dons libres. Je ne sais pas si j'en ai parlé, parce qu'on me demande parfois s'il y a un Tipeee, mais j'ai choisi Liberapay parce que c'est basé sur un logiciel libre. C'est géré par une association française et donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a pas mal de logiciels libres justement qui se financent avec Liberapay. Et quand on crée du contenu libre comme le nôtre, c'est parfois compliqué. Et moi, je vais laisser la parole à René pour le mot de la fin.
Waouh. Je vais encourager les gens à donner sur Liberapay. Surtout que tu te compares à Atlassian comme concurrent, donc c'est pas le plus petit. Il va falloir faire quand même beaucoup de dons pour pour arriver à concurrencer Atlassian. Après, qu'est-ce que je peux dire? Git Blame, c'est de l'humour à la Linus, et voilà, en mot de la fin, je vous dirais d'aller chercher ce que veut dire Git en argot anglais.
Et Erwan, ton mot de la fin de la fin.
Comme il y a eu la faille log4j, ça sera Java.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.